La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. La bande des joyeux siffleurs est de retour. Bienvenue dans cette midinale de Radio Piquet en ce 3 octobre 2022. Désolé pour le petit retard de prise de direct, mais ça y est, on est prêt. Aujourd'hui, autour de la table, on a Asgard à la technique qui reprend ses marques. Il dit pas bonjour, en plus il veut pas.
Le temps d'allumer le micro, je reprends mes marques.
On a Bastien.
Salut.
On a Kevin.
Bonjour.
On a Jean.
Salut.
Pedro.
Salut, salut.
Et Seb. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette midinale? On va commencer en première partie par notre revue de presse. Et pour commencer, on va faire un retour sur la journée de mobilisation qui a eu lieu jeudi dernier, 29 septembre, à l'appel des syndicats. Qui en parle en premier?
Je pense qu'on peut faire un retour déjà sur le rendez-vous qu'il y avait donc jeudi 29 septembre à 10h à Pontanezen. Donc avec une action du coup par rapport à la gratuité des transports en commun pour la réclamer quoi.
C'est ça, il y a une grande campagne qui a été lancée sur Brest apparemment.
Une belle campagne réussie.
Le lancement a eu l'air d'avoir suivi ça en tant que journaliste. J'ai trouvé ça réussi pour ce début de campagne.
Alors moi, j'étais là au niveau plus de l'esthétisme. Alors il y a eu un beau collage dans les transports, aux abords, sur les stations, etc. Après, on a eu la joie de se faire distribuer un tract, en fait. Donc, je ne sais pas, on le lira peut-être, mais sur... En tout cas, sur l'action en elle-même, Seb et moi, on y était. C'était plutôt réussi, parce qu'on est parti. Il y avait une quarantaine de personnes en fait présentes. Donc voilà, c'était un chouette moment. Les retours, tout le monde était assez content. Donc ça montre aussi que, en s'organisant un petit peu à l'arrache, on peut arriver à quelque chose, quoi. Parce que c'était pas une action qui était prévue de longue date, mais les militants et militantes ont répondu présents en tout cas.
Et apparemment, ils ont eu un très bon accueil. Moi, j'ai trouvé dans les transports, il y a eu des échanges oraux. Et il y a beaucoup de personnes que ça intéresserait de pouvoir prendre les transports gratuitement, quoi. Moi j'ai discuté avec des gens autour, même des gens qui payent leur abonnement, on va dire que 15 euros, mais déjà 15 euros pour certains, ça leur plombe déjà leur budget mensuel. Donc des très bons retours, donc une belle descente, on va dire, hein, de l'arrêt de tram Europe jusqu'à Liberté, point de rendez-vous de la manifestation locale. J'ai suivi les manifestants de cette demande de transport gratuit qui ont été jusqu'à la boutique Bibus pour leur exprimer leur vœu d'avoir les transports gratuits. Voilà, l'accueil a été un petit peu plus froid forcément, quoi, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Voilà, donc c'était une façon de se mettre en joie avant d'attaquer la manif à 11h.
Ouais, et puis des échanges assez courtois. En plus, on a eu la chance de rencontrer deux personnalités politiques, Sandrine Péririn, qui est élue à la métropole, et Marc Cotanea, un ancien candidat au municipal de Brest. Donc c'était assez rigolo de rencontrer des gens comme ça qui sont directement, on va dire, qui c'est pas des agents standards en fait. C'est vraiment des gens auprès de qui il faut aller aussi. Faut leur forcer la main.
Quoi.
Ouais, faut leur. Après, on a Moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient trop répondu aux questions. Après, c'était pas le but, hein. On n'allait pas non plus là-bas pour les croiser. Ça, c'est peut-être l'objectif de d'autres organisations. On pense plus à des organisations politiques, par exemple. Parce qu'on sait que le transport gratuit, c'était porté par la France Insoumise et le candidat Pierre-Yves Cadalin.
En municipal de 2020.
En municipal de 2020, ouais. Et pour revenir un petit peu, Marion annonçait la semaine dernière qu'elle avait un doute sur... sur justement ces demandes là de transport gratuit, sur les visées électoralistes que ça pouvait avoir. Elle avait partiellement raison, parce que Marc Cotanea, en fait, s'était vraiment prononcé pour la gratuité des transports, en tout cas pendant la campagne de 2020, pour les moins de 25 ans. Donc voilà.
Donc, sur Brest, sur Brest, ça fait un beau public comme les moins de 25 ans, parce que c'est une ville étudiante, donc ça représente du monde. Mais... c'est marrant parce que Marc Cotanea, lui, il était candidat à la majorité, et je crois pas qu'il défende la majorité présidentielle, si mes souvenirs sont bons. Il était même pas de gauche, lui, c'était En Marche, non ?
Ouais, c'est un candidat, enfin, c'est un des 5 ou 6 candidats En Marche, non, je rigole, mais voilà, c'était. Alors, je sais plus, en 2020, je pense qu'ils étaient au moins 2. Bon, après, c'est ça qu'il faut voir. Ça m'étonnerait pas non plus que Malgorn, par exemple, un jour ou l'autre, elle se dise, bah tiens, ce serait bien aussi que je propose ça. Après, c'est vraiment on peut pas être contre la gratuité des transports pour les jeunes, en tout cas, parce que tout le monde, voilà, c'est quand même des futurs électeurs, tout ça. Donc voilà, c'était rigolo.
Après, faut qu'ils expliquent comment ils financent, quoi, ça, si c'est plausible ou pas. Quoi. Mm.
Qui explique ?
Bah, les politiques. S'ils veulent la gratuité, faut qu'ils, j'imagine, présentent leur, leur budget, comment ils financent le truc. Parce que souvent, ça peut être par une taxe sur des entreprises locales. Donc, certains pourraient dire que ça va fuir les entreprises. Mais en fait, ça s'est fait, on en parlait l'autre fois, dans, je crois, 37 ville
38.
Je sais pas pourquoi j'avais 37.
T'as oublié Morlaix, c'était le dernier.
La dernière locale, c'est Morlaix, ouais.
Et souvent de la taille de Brest, enfin, comparable, on va dire, à Brest, quoi. Donc c'est tout à fait faisable. On avait déjà dit.
Oui, et puis on pourrait dire aussi aux politiciens, s'ils veulent quelques pistes de financement, de se rapprocher des collectifs qui luttent pour la gratuité des transports, pardon. Parce qu'il me semble qu'il y a quelques pistes très intéressantes. Parce qu'il faut savoir, par exemple, sur Brest, que le ticket, ce que rapportent les tickets, en fait, à la vente, ce n'est que 15% du financement global des transports sur Brest. Donc voilà, il y a 15% à trouver. De je ne sais pas combien de millions, mais bon, il y a en allant voir, il y a plusieurs pistes pour trouver l'argent. Il y a d'autres villes qui ont réussi, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas à Brest, quoi. Je sais pas, on pourrait par exemple arrêter d'entretenir le téléphérique, hein, qui coûte des thunes monstres. Je pense que ça paye le transport.
Voilà. Ouais, mais ça ramène des touristes.
Ouais, c'est bien. On revient sur la lutte après syndicale, enfin en tout cas l'appel syndical, pour en parler un petit peu de ce qui s'est passé à Brest, jeudi.
Alors, est-ce qu'il s'est passé... Enfin,
ce qui s'est passé...
est-ce qu'il s'est passé quelque chose de...
D'original.
D'original, qui sort de l'ordinaire.
Oui, il y a un truc, moi, que j'ai noté. Il n'y a pas eu de discours.
Alors, si, il y a eu un discours au début.
Oui, mais c'était l'Union Pirate. Union Pirate.
C'était court, je crois.
C'était les petits jeunes de la fac, ou les grands jeunes, d'ailleurs. Mais il n'y a pas eu de discours de la part des syndicats historiques, quoi.
Fac qui s'est fait taguer par les fachos au passage.
Ce jour-là ?
Non, dernièrement, là, il y a quelques jours. Ah,
ça, c'est encore un autre sujet qu'il va falloir aborder.
Non,
un
c'est jour, juste ça. Pour donner l'info au passage.
Bon, autrement, qu'est-ce qu'il y a eu d'exceptionnel ? Si, on va quand même dire que malgré la non-présence de FO, il y avait quand même quasiment 3000 personnes sur Brest qui ont déambulé, ce qui est quand même pas mal. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu 3000 personnes. Un parcours un peu plus longué que d'habitude. On a eu la chance de pouvoir visiter le port par les rampes, quoi. De passer par le château. On est remonté depuis Batiam, un grand parcours. C'était
majestueux. Ouais, ils ont évité les points un peu critiques quand même, parce qu'on n'est ni passé devant la sous-préf, ni passé devant le commissariat.
Mais c'est pas mal aussi d'éviter la sous-préf, de leur montrer qu'en fait on s'en fout d'eux.
Ouais, je sais pas. J'ai...
Ça peut être, eh, on arrive. Eh ben non, on n'arrive pas.
Il y avait une bouffe, au final, à Liberté. Ça change. Ils font pas tout à fait ça d'habitude.
Non,
il me
pas
semble.
Tout le temps. Non. Ils avaient surtout remis leur stand sur la place de la Liberté, ouais, en bas, quoi, avec trois beaux barnums, ouais, à boire, à manger. Ils sont restés un peu plus longtemps, même si je pense qu'à 14h, le débrayage était fini sur Brest.
À peu près, ouais.
Ouais. Voilà. Ouais. Bon. Moi, ce qui était marrant, c'était la campagne du transport gratuit, finalement.
Oui.
Ouais, après, tu peux quand même dire, pour rebondir sur ce que tu as dit, les 3000 personnes, on est sur une rentrée, on est sur la rentrée sociale, là, il y a eu les vacances. Il n'y a que trois syndicats qui ont appelé à manifester. Hein. Il y a la CGT, UNSA et. Non, il n'y avait pas UNSA, Solidaire.
CGT, FSU, Solidaire.
Ouais, voilà, donc trois syndicats, il n'y avait pas UNSA, excusez-moi.
Sud aussi, non ?
Oui, Sud Solidaire.
Ouais, Sud Solidaire, c'est pareil.
Il y avait plusieurs syndicats d'enseignants, là, et puis des universitaires.
Moi, personnellement, j'ai trouvé, pour avoir fait le cortège hein, aussi, que 3000 personnes sur une rentrée, c'était un bon indicateur, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de syndicats qui ont appelé à la grève. Mmh. Alors, je sais pas, j'ai pas trop suivi sur les autres villes comment ça s'était passé. À Brest, il y avait 3000 personnes à peu près. Le cortège était quand même bien étoffé. Le fait qu'ils aient remis, comme on dit, la petite bouffe à la fin, ben, c'est bien aussi parce que ça permet aux gens de se retrouver et d'échanger, puisque finalement, on ne se sépare pas chacun à la fin en se disant « Allez, salut, à la prochaine ». Donc là-dessus, ils ont été pas trop mauvais. La playlist a été mise à jour aussi à la CGT. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est pas mal.
Tu étais devant le cortège, toi ?
Mais ouais, mais moi, j'étais
des... Pas entendu la playlist.
J'ai pas trop eu le choix, moi. Donc, je me suis fait alpaguer.
Qu'est-ce qu'il y avait de chouette dans la playlist ?
Il y avait les Salmages.
Ouais.
Oh, bah, moi, je trouve sympa, là, petite chanson. Les patrons, c'est comme des cochons. Tu vois, ça me fait toujours rigoler. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Ils ont un peu rajeuni la playlist. Et après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de discours trop au début. Il y a eu j'ai trouvé le lancement un peu chaotique, on va dire. C'était, voilà. Mais bon, l'organisation aussi de la CGT a changé il n'y a pas longtemps. Donc c'était des nouvelles têtes qui s'occupaient des lancements de cortèges. Donc c'était peut-être un peu plus cafouillis que d'habitude.
Il faut qu'ils se lancent aussi.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé très bien, moi, l'idée de la bouffe à la fin. Ils avaient fait ça quand il y avait eu les réformes des retraites et qu'on avait rejoint les gars de Damen. Au port, là, il y avait eu une bouffe pareille, et ça permet, tu vois, finalement, que les gens ils discutent et ils rencontrent aussi d'autres gens, parce qu'il n'y a pas forcément que des syndiqués qui manifestent, hein, malgré si majoritairement c'est des syndiqués qui répondent à l'appel de leur centrale. Il y a des gens qui sont là aussi, qui n'ont pas de culture syndicale ou pas de culture politique là-dessus, qui manifestent parce qu'ils ne sont pas contents, ce qui est normal. Et ça leur permet aussi de voir qu'il y a des interlocuteurs locaux qui peuvent aussi reprendre leur lutte ou reprendre leurs revendications, ce qui n'est pas inintéressant de se remettre aussi dans la rue, ce qu'on reproche quand même souvent aux syndicats d'être hors sol, quoi.
Bien. Donc ça, c'était pour ce qui s'était passé sur Brest. Tu voulais faire un petit retour au niveau national, toi, Bastien ?
Ouais, bah du coup, moi, pour m'informer un peu sur l'évolution des grèves et de l'actualité syndicale, je trouvais pas mal ce que publiait Révolution Permanente, parce qu'ils sont un peu les seuls sur ce créneau avec Rapport de Force aussi. Et donc voilà, ils ont suivi les différentes grèves qui se déroulaient en France là, cette semaine, notamment dans le secteur de la pétrochimie et de l'industrie automobile aussi, avec les grèves à PSA, appelées Stellantis. Et pour la pétrochimie, c'est Total et ExxonMobil, quoi, avec des raffineries à l'arrêt, des dépôts de carburant. Donc voilà, ils évoquent aussi régulièrement la stratégie syndicale, en fait, où il n'y a pas vraiment de coordination, parce que, en gros, c'est un peu comme si on avait des avant-gardes qui partaient à l'abordage, donc là, avec quatre raffineries à l'arrêt. Mais sans véritable plan de bataille et sans solidarité interprofessionnelle et puis avec la centrale qui suivrait ces grèves. Et il faut savoir que quand ils arrêtent une raffinerie, ça met donc c'est 5 jours pour l'arrêter, 5 jours pour la faire repartir. Donc quoi qu'il arrive, t'es sur 10 jours et t'as encore des jours pour que ça se remette un peu quand même en branle, quoi. Et donc, c'est des syndicalistes combatifs, dont notamment Adrien Cornet pour Grand Puy, la raffinerie de Grand Puy, qui est aussi à Révolution Permanente, et bon, du coup, qui est souvent interviewé sur le site. Mais il n'y a pas que lui, il y a quand même il y a quand même du monde. Alors, les grévistes réclament 10% d'augmentation pour rattraper tout simplement l'inflation, hein, 2021-2022. Pour être plus précis, la grève a été particulièrement suivie sur les raffineries de Normandie et de Fezin, ça c'est près de Lyon. Donc ça fait 4 raffineries à l'arrêt, en comptant les deux sites d'ExxonMobil et Sceaux. Au total, c'est 61% des capacités de raffinage du territoire métropolitain qui sont à l'arrêt. En Normandie, il y a aussi le dépôt de carburant d'Oudal, toujours en grève reconductible, pardon. Donc voilà, avec l'arrêt des unités en cours. Et il faut savoir que c'est vrai que là, on l'a pas dit, mais la date du 29 septembre, il y a pas cette idée de grève reconductible, quoi.
Non, pour l'instant,
non. Donc c'est très symbolique, c'est un peu bon la rentrée, comme ça on fait le petit tour, et puis il y a pas de vraie volonté d'imposer un rapport de force. À Marseille, c'est la raffinerie de Lamed qui a vu sa grève reconduite. Donc tout comme à Fezin, où l'activité de la raffinerie est à l'arrêt. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les raffineries. Bon, c'est à suivre. Après, j'ai l'impression que ça suit pas d'autres secteurs professionnels. Donc voilà, ils sont un peu isolés. Par contre, à PSA aussi, il y avait une grève historique qui a mobilisé 4300 ouvriers qui ont débrayé sur différents sites. Donc il y a un rapport de force là qui est pour le coup assez dur installé à PSA, et notamment avec le site de là où officie Jean-Pierre Mercier de Lutte Ouvrière, et donc qui est à la CGT aussi. Et donc qui s'est fait comment dire emmerdé par la bureaucratie syndicale, je trouve pas le mot, mais en gros ils
ont reproché ses positions, c'est ça.
Ils ont envoyé les huissiers à des militants de la CGT PSA Poitou, quoi. Et ils ont voulu construire un syndicat à côté de celui qui était déjà démocratiquement élu. Et donc ça, c'est vraiment des syndicalistes combatifs. Et donc voilà, il y a une pétition qui a été lancée pour les soutenir. Donc voilà, ça c'est un secteur de PSA, le site de Poissy. Et sinon, ça a quand même bien suivi pour une grève dans le secteur automobile. Donc avec, je ne vais pas tous vous les faire, mais 1100 personnes, 1100 grévistes à Sochaux, 1290 à Mulhouse. Donc il y a encore quand même des concentrations ouvrières comme ça, où s'ils se mettent en grève, c'est quand même assez intéressant au niveau du rapport de force que ça amène. Donc voilà, affaire à suivre. Là pareil, ils sont un peu... ils sont un peu isolés aussi. Ils sont isolés dans leur secteur, quoi.
J'imagine que là, c'est des revendications sur de l'interne société. Donc, pour l'instant, ils doivent être sur les salaires. Et...
Ouais.
Un peu comme dans les raffineries. Donc, comme pour l'instant, c'est des luttes internes, c'est compliqué de les exporter. Mais à voir comment ça prend sur d'autres secteurs, bien sûr, ouvriers de France, quoi. Mais par contre, c'est vrai que, comme tu disais, c'est pas retranscrit trop dans les médias actuellement. Ils ne disent pas qu'il n'y a pas les médias dominants qui disent que 61% de la production d'essence est à l'arrêt, parce que demain, ils t'annoncent ça aux 20h. Bon, tu peux être sûr qu'il y a la file dans les stations-service, que c'est la folie et que... Voilà, mais bon, c'est... Parce que, en plus, pour remettre un peu une bille dans les raffineries, ils ont été particulièrement remontés parce qu'en plus, la Total vient de leur annoncer qu'ils allaient verser 2,7 milliards d'euros de dividendes. Donc, on va dire que 10% d'augmentation de salaire à côté de ça, c'est pas grand-chose, quoi.
Ouais. Et à côté de ça, on a Martinez et Laurent Berger pour la CFDT qui vont aller aux réunions... Oui. Avec le gouvernement pour négocier, je ne sais pas trop ce qu'il y a à négocier. Et donc, il y avait un article aussi sur Révolution Permanente qui critiquait cette stratégie dont la CGT n'y croit pas elle-même.
Voilà. Même la CFDT n'y croit pas, puisque là, il y a eu des déclarations de Laurent Berger qui sont tombées ce week-end là, dans plusieurs médias, où il disait clairement qu'on négociait pas avec un flingue sur la tempe.
Ah oui.
Donc pour que Laurent Berger il sorte des choses comme ça, c'est que bon, il y croit pas lui-même quoi.
Et voilà. Bah après sur, je sais pas si quelqu'un a d'autres choses à dire un peu sur l'actualité syndicale.
Non. Voilà, ils sont dans le. De toute façon, je crois qu'ils attendent la réforme des, enfin la présentation de la réforme des retraites là, qui est le sujet bouillant de la rentrée là. Et que comme le gouvernement veut absolument pas avancer ses billes sur le sujet, parce qu'ils savent que tout est très glissant, parce qu'il y a quand même eu des sorties fracassantes ce week-end, du style notre cher président qui nous annonce que si jamais il y a une motion de censure, il voterait dans la. Enfin, il annoncerait dans la. Si une motion de censure passe, il dissolue l'Assemblée dans la foulée. Donc quand on en est là, c'est qu'on n'est pas là pour négocier. On est plutôt dans un rapport de force qui va s'instruire, hein, de toute façon. Donc maintenant. Comme je lui dis, hein, s'il veut dissoudre, qu'il dissoudre, mais je ne suis pas sûr que ce sera le résultat qu'il attend. Quoi.
Bon. Je précise aussi, donc du coup, sur Révolution Permanente, il y a une caisse de grève qui a été mise en place pour soutenir les grévistes de la pétrochimie qui sont en grève reconductible à Total et à ExxonMobil.
Bien. D'autres grèves en vue ?
D'autres grèves en vue, je sais pas.
Appelons. Toutes et tous à se mettre en grève.
Ouais, il y a tellement de sujets, je vais te dire que. Ouais.
Et bon, pareil, là, sur à Révolution Permanente, ils réclament 400 euros d'augmentation de salaire et inscrire dans la loi, quoi, finalement, que les salaires suivent l'inflation.
Ce qui était le cas un peu avant. Enfin, sur certains.
Il y a longtemps.
Dans le secteur public, oui.
Il y a très longtemps, ça.
Ouais. Ouais. Depuis la réforme du point d'indice, il n'y a plus ça.
Bon. Moi, si vous voulez, en lien, avec les luttes sociales, il y a un monsieur qui m'a fait réagir dans la semaine. C'est un article que j'ai trouvé au départ sur Le Monde, quoi. C'est Olivier Dussopt. Alors, il me semble que c'est notre nouveau ministre du Travail, celui-là. Ouais, ouais, c'est ça.
Un ancien socialiste.
Ouais, ouais, tu parles, pas payé ton socialiste. Et voilà, donc le titre de cet article du Monde, c'est Olivier Dussopt prêt à durcir l'accès à l'indemnisation du chômage en cas d'abandon de poste. Alors là, attention. Attention, ça déménage. Bon, tout ça s'inscrit toujours dans le fait de. Bon, on va réduire le nombre de chômeurs, hein, de durcir les droits d'accès au chômage, tout ça. Donc là, il s'en prend aux gens qui font un abandon de poste. Alors, Le Monde rappelle en sous-titre, un abandon de poste intervient lorsqu'un salarié ne vient plus travailler sans justification et finit par être licencié par son employeur. Alors, j'ai envie de préciser aux journalistes du Monde qu'un abandon de poste ne se traduit pas toujours par un licenciement. Hein.
C'est ça.
Quand vous faites un abandon de poste, pendant que vous ne venez pas travailler, donc, alors on ne parle pas encore des causes, j'y reviendrai après, de l'abandon de poste, mais vous gagnez 0 euros. L'employeur ne vous paye pas pendant ce temps-là. Donc en fait, l'employeur a plusieurs solutions. Il en a deux. Ou il finit par vous licencier parce que vous ne voulez plus venir travailler, ou il attend tranquillement que vous n'ayez plus d'argent. Hein, pour manger, payer votre loyer, etc., et que vous reveniez bien gentiment à votre poste. Et ça, souvent, ça, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Alors maintenant, parlons des... Pourquoi il s'en prend aux gens qui abandonnent leur poste ? Olivier Dussopt a dit, je cite, « Il y a une faille. Un salarié qui procède à un abandon de poste a accès à des conditions d'indemnisation plus favorables qu'un salarié qui démissionne. » Alors, je vais rappeler à notre cher ministre du Travail, ça c'est comme ceux qui, apparemment, au gouvernement, ne connaissent pas le prix d'une baguette. Hein. Quand on démissionne, monsieur Dussopt, on n'a pas accès au chômage. Sauf, il me paraît qu'il y a des cas super exceptionnels qui ont été mis en place, mais qui sont assez durs à obtenir, comme par exemple rejoindre son conjoint, quand un conjoint est muté ou quelque chose comme ça. Mais c'est des cas super marginaux, quoi. En général, tu démissionnes, tu n'as pas accès au chômage. Donc j'aimerais bien savoir comment ceux qui ont un abandon de poste, effectivement, ont des conditions d'accès plus favorables.
Mais ils ont droit au chômage.
Oui, à partir du moment où ils sont licenciés.
C'est ça, on est d'accord.
Donc, comment on en arrive pour... Alors après, on fait un abandon de poste, on est payé zéro, et on est licencié. Mais pour quelle cause ? Bah pour faute. Or, après, suivant, je ne sais pas comment on va classer ça l'entreprise, c'est faute grave, faute lourde. Donc, il faut savoir qu'aussi, au passage, on peut potentiellement perdre ses indemnités de licenciement, voire ses indemnités de congé. Ça peut commencer à faire beaucoup. Hein. Donc, je doute que les gens qui font un abandon de poste s'assoient sur toutes leurs indemnités juste pour aller toucher le chômage. Moi, un abandon de poste, généralement, on ne le fait pas par plaisir. On le fait parce qu'il y a une cause qui a déclenché ça. Et souvent, cette cause, c'est du mal-être au travail, quoi. Ah, oui. Je vois pas. Sinon, c'est pas « Ah, youpi, tiens, aujourd'hui ». Non, ça n'arrive pas, quoi. D'ailleurs, pour l'avoir pas testé, mais pour avoir presque vécu ce truc-là, je peux vous garantir que oui, non, ça se passe pas très bien. Donc voilà. Donc bon, déjà, on part sur un gros mensonge du ministre. Hein. Le Monde ne reprend pas du tout cette histoire de démission, quoi. Qu'est-ce que j'avais mis ? J'en ai fait un post sur Facebook. J'étais fâché quand je suis tombé là-dessus. Je vous raconte pas. Après, donc ça je disais, hein, Le Monde et du SOP ne se posent pas la question du pourquoi les personnes sont amenées à un abandon de poste. À peine évoquent-ils le fait que c'est parce qu'ils n'ont pas obtenu une rupture conventionnelle. À peine. Donc la rupture conventionnelle, on le rappelle, c'est, voilà, vous voulez quitter votre emploi pour une raison X ou Y, hein, vous demandez une rupture conventionnelle à votre patron, qui peut ou pas vous l'accorder, et si elle est accordée, là, vous avez accès, vous avez vos droits au chômage, si vous êtes évidemment éligible.
Et tes primes
Et tu gardes tes primes de licenciement et tout ouais. Ça, quoi. Bon, évidemment, la rupture conventionnelle, c'est un bien bel outil. Mais il me semble que les patrons majoritairement disent non. Voilà. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je vais me citer en tant qu'exemple. Je fais 18 années de travail sur Paris. Au bout d'un moment, j'en ai marre de la vie parisienne. Ça commence à être plombant, pesant en famille, au niveau de la famille et tout. Donc je décide de quitter cette région. Pour quitter la région, il fallait bien que je quitte mon poste. C'était un CDI. Alors je réclame une rupture conventionnelle. Réponse du patron. Alors, entre-temps, moi, j'étais prestataire de service pour d'autres clients. Donc, j'avais réussi à faire mettre fin au contrat qu'avait le client avec ma boîte, ce qui me libérait finalement de mes obligations de travail, on va dire. Donc, j'étais dans une situation où le patron aurait pu tout à fait accepter ma rupture conventionnelle. Il ne le fait pas. J'en suis pas venu à l'abandon de poste. C'était pas loin. Parce que j'ai quand même dit, mais tu sais très bien que là, je viens de tout plaquer, ça y est. Enfin, j'avais fait mes préavis au niveau du loyer et tout ça. Enfin, au niveau de mon logement. Et la réponse de mon patron, bah, t'as qu'à remettre ton... Et j'avais fait une demande de mutation en plus sur Brest, hein, puisqu'on est sur Brest. Et mon patron me dit, bah, t'as qu'à juste remettre ton CV à jour, on te fera des propositions. Et là, je suis tout content, je fais, ah, ça y est, vous m'avez trouvé du boulot sur Brest. Que nenni. Ah non, non, non. C'est pour représenter ton CV à des clients parisiens. Et j'ai dit, mais là, vous foutez de moi, là. Donc là, je commence à péter un boulon. J'ai dit, bah écoute, du coup, il me reste quoi, là, pour pouvoir partir de Paris, puisque tu refuses la rupture conventionnelle, l'abandon de poste, c'était pas tenable non plus, parce que je savais que je serais pas payé. Donc il me restait de faire une faute. Donc là, j'ai clairement dit, j'ai dit que alors, pour une faute, il me reste soit je t'insulte, c'est une faute grave, et si je te tape, c'est une faute lourde. Bon, j'ai choisi la faute grave, j'y ai dit clairement. Donc ça a poussé quand même, ça pouvait aller loin, parce que faute grave, tu peux être mis à pied pendant un certain temps, ça peut durer 4 à 5 semaines suivant les procédures internes, et c'est aussi 4 à 5 semaines où tu n'es pas payé. Alors bon, à la fin... dans l'exemple, moi, ça s'est pas trop mal terminé, puisque en montrant les dents, j'ai dit, écoute, là, c'est vous qui me poussez à faire la faute. Donc, moi, il est hors de question que je me retrouve mis à pied sans thune, quoi. Et à la fin, bon, il me dit, écoute, on te propose quand même 2 emplois sur Paris. J'ai dit, mais non, d'ici, tu les refuses, et comme ça, on valide ta faute comme ça. Bon, donc, c'est comme ça que ça s'est terminé avec eux. Mais bon, pour vous montrer un peu les difficultés quand même, que cette rupture conventionnelle n'est pas obtenue. Et voilà, et sous prétexte que tu veux changer de lieu de vie, eh ben on te dit, en gros, tu te démerdes. Tu fais, ok, ça fait 18 ans que tu bosses, mais tu partiras avec zéro, quoi. Ton projet de vie, il va commencer avec zéro, quoi.
Oui.
Voilà.
Tout en sachant qu'en plus, la rupture conventionnelle, c'est un truc qui a été mis en avant par tous les gens qui nous dirigent pour justement, soi-disant, fluidifier le monde de l'entreprise et permettre aux gens de se réorienter. Mais comme tu es dans ton cas, comme toi, là où tu as 18 ans d'ancienneté, bah, le patron, le seul truc qu'il a vu, c'est 18 ans ma convention collective, c'est combien je lui dois de primes de licenciement au bout de 18 ans, combien ça coûte, et il dit, ça coûte trop cher. Donc forcément, tous les gens qui sont dans ton cas, ce sera niet. Donc on les encourage à la faute ou à l'abandon de poste. Et comme tu le disais, l'abandon de poste n'est pas payé. Moi, j'ai connu des gens pendant 6 mois en abandon de poste, 0 euros, et le patron ne les licencie pas. De toute façon, c'est zéro. Donc, tu es dans les effectifs, mais tu n'es pas payé. Et le patron, comme il n'a aucune obligation de te verser un salaire puisque tu n'es pas là, eh ben, tu n'as rien. Donc, puis en plus, il s'attaque à un pouillem du... Ce n'est même pas un problème. Le problème, c'est que les patrons ne jouent pas le jeu sur... En fait, il y a beaucoup de gens aussi, un peu comme toi, qui partent sur d'autres projets ou d'autres vies. Le chômage, ça te permet aussi quelque part de rebondir et de prendre une formation. Et le chômage, c'est un droit, tu as cotisé pour l'avoir. Donc, c'est encore...
Alors, je vais reprendre aussi les déclarations du SOPT quand même, parce qu'il y a un point aussi qui est important dans le cadre là où il veut sanctionner en fait les gens qui font des abandons de poste. Hein. Non seulement, il dit... comment il a dit ça ? Nous sommes ouverts à ce que ces conditions soient alignées. Les conditions donc, d'obtention du chômage entre celui qui fait un abandon de poste et le démissionnaire. Sur celle des démissions. Et il dit qu'il veillera, il faudra veiller à ce que les salariés qui abandonnent leur poste pour des raisons de sécurité ne soient pas pénalisés. Les salariés qui abandonnent leur poste pour des raisons de sécurité. C'est quoi les raisons de sécurité dont il parle ? Qui va définir que ton abandon de poste, il est fait en toute raison de sécurité ? Le patron, j'imagine ? Je ne sais pas qui. Enfin, tu vois, c'est flou, quoi. Mais c'est un truc de fou quand même, c'est vraiment du foutage de gueule, voilà. Et je finirai, parce que alors là, à la fin, et bon, il explique hein, sur les abandons de poste, il dit que c'est un phénomène de plus en plus palpable par les milieux professionnels, donc j'entends là de plus en plus courant, il me semble pas, hein, c'est pas un truc qu'on entend parler partout. Le salarié qui veut quitter son emploi pour se retirer du marché du travail, tout en ayant pour objectif de conserver un revenu, ne va pas démissionner, mais simplement ne plus revenir au travail afin que l'employeur, de guerre lasse, procède à son licenciement. J'adore, c'est l'employeur qui va le faire de guerre lasse, tu vois, m'en dis pas, toujours on se met pas du côté de l'employé, c'est lui qui est lassé de son travail en fait.
Là, c'est des députés LR qui disent ça.
Oui, oui.
Alors qu'il existe, et en plus, c'est précisé dans l'article, il n'existe aucune statistique sur les abandons de poste.
Ouais. Et alors, il précise encore, les députés LR, là, alors que le démissionnaire est tenu par un préavis qui permet à l'employeur de s'organiser. L'employé fantôme, en abandonnant son poste du jour au lendemain, perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise. Encore une fois, pauvre petit patron. Voilà. Hein ? C'est pas l'employé qui est en souffrance, c'est le patron la victime dans l'histoire. Bon bref, un article super dégueulasse, sur un sujet super dégueulasse, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Quoi. Voilà.
Ouais, ça va. Je pense que ça va rentrer dans la réforme du chômage.
Oh oui, oh oui, oui.
Et à propos de licenciement, donc du coup, cette semaine-là, il y avait le tribunal commercial de Lille qui a rendu son verdict pour Camailleux, l'enseigne de prêt-à-porter quoi, française, et donc qui est placée en liquidation judiciaire, ce qui entraîne la fermeture de 514 magasins en France et surtout la suppression de 2600 emplois. Voilà. Après, toujours sur cette actualité sociale, il faut savoir que là, c'est plus encourageant à l'international. La grève a repris en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, avec plein de secteurs qui sont mis en grève, avec des blocages, les dockers, des postiers, des... dans les transports londoniens aussi, avec des chauffeurs de bus, dans l'éducation, l'hôpital, des éboueurs aussi sont en grève.
Ils ont tous repris, en fait. Il y a juste eu la pause, le temps d'enterrer la reine.
Voilà, la pause, le temps d'enterrer la reine. Et donc, voilà, je trouvais qu'il était intéressant l'article de Révolution Permanente, toujours, qui s'appelle « Après les hommages, les débrayages s'enchaînent au Royaume-Uni ». Au Royaume-Uni, pardon. Donc il est daté du mercredi 28 septembre et donc on n'en parle nulle part, quoi. Hein, c'est...
Ils en parlent un peu, mais voilà. C'est... Et puis, sachant qu'ils ont repris aussi suite aux dernières sorties de la nouvelle première ministre qui se revendique thatcherienne, parce qu'elle est pro-Thatcher, donc ultra-libérale, et qui a dit bah, nous, pour aider l'économie, on va faire un cadeau fiscal aux riches. C'est pour relancer. C'est comme ça. Okay. Quoi. Donc, sa première mesure, en gros, c'était de dire les gens qui payent je ne sais plus combien de milliers d'euros, enfin, qui ont un revenu de, je crois, c'était 100 000 livres, son plafond. Donc, c'est 1% de la population anglaise. On va les exonérer d'impôts. Ça va aider à relancer l'économie. Et après, il y avait un article, là, je ne l'avais pas abordé la semaine dernière, là, et ils envisagent justement aussi, suite aux mouvements sociaux en Angleterre, de réformer le droit de grève.
Voilà. Ah oui, ça va.
Donc dans l'article de Révolution Permanente, ils mettent « En plus d'avancer des mesures néolibérales avec l'annulation de l'augmentation de l'impôt sur les sociétés et une nouvelle réduction d'impôt pour les riches, s'ajoutant à d'autres mesures pro-patronales comme la fin du taux maximum de l'impôt sur le revenu. C'est une guerre de classe assumée que souhaite mener la successeuse de Boris Johnson, à savoir Liz Truss. »
C'est ça.
C'est comme ça qu'on prononce.
Et son nouveau patron là, du travail, enfin son ministre du travail, est aussi ultra-libéral. Enfin, voilà, ils sont tous dans la même branche. Et c'est, enfin là, en Angleterre, il faudra le suivre, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des luttes sociales comme ça. En fait, les dernières, c'était celle qui est sous Thatcher, justement. Et ce n'est pas un pays qui a une histoire de grève dernièrement. Il s'était fait plutôt écraser par tout l'ultra-libéralisme en Angleterre. Ils étaient soutenus, tout ça soutenu par la City. Hein, donc en fait aussi, le problème, c'est que l'Angleterre paye là, le Brexit, enfin les mensonges qu'ils ont eus. Et comme ça commence à se vautrer l'économie, parce que ben, mine de rien, avec le Brexit, ils ont renforcé les... En fait, ils ont beaucoup de secteurs, excusez-moi, je paye beaucoup aujourd'hui. Ils ont beaucoup de secteurs où en fait, c'était des travailleurs, comment on appelle ça, j'oublie le nom là, qui viennent
détachés.
D'autres pays, détachés, voilà. Et en fait, avec le Brexit, comme toutes, ils ont été sortis de l'espace Schengen, la libre circulation des gens et tout ça, ils n'ont plus de conducteurs de poids lourds, ils ont plein de secteurs de l'économie, en fait, qui sont complètement à l'arrêt. Là, ils ont eu des chances cette année chez les agriculteurs, ils n'ont pas pu faire les récoltes parce qu'il n'y avait personne pour aller faire les récoltes. Enfin, c'est assez catastrophique, on n'en parle pas trop. Et là, il y a une grosse colère sociale, et sachant qu'en plus, ils ont eu aussi l'inflation de l'énergie, où là, c'est un carnage. Enfin, il y a des gens, ils ont vu leur facture d'énergie multipliée par 5 ou 6. Enfin, on n'en parle pas trop en France, mais...
Ça va venir, parce qu'on va avoir on va subir la même chose d'ici peu. Hein.
Alors là, dans l'article de Révolution Permanente, justement, ils mettent, selon l'Institut de Statistique Britannique, l'augmentation généralisée des prix tourne autour des 10%, niveau le plus haut depuis 40 ans. De la même manière, le prix de l'énergie, notamment pour les tarifs réglementés, va augmenter de 80% à partir d'octobre, faisant plonger les deux tiers des ménages dans la précarité énergétique d'ici à 2023, d'après York University. Donc voilà, autant dire que le contexte économique ne va pas atténuer la colère des travailleurs britanniques dans les prochains mois, conclut Révolution Permanente.
Ouais, puis ce week-end, ils ont pris un avertissement du FMI. Donc si le FMI commence à dire « là, tes comptes publics, c'est pas bon », c'est comme un institut pro-libéral qui te dit ça, c'est bizarre.
C'était quoi leur note à l'Angleterre?
Oh, je n'ai pas la note de tête. Là. De toute façon, j'y crois pas trop.
Plus. Ouais. Bon, ils vont perdre un petit plus.
Non, là, ils ont quand même la livre sterling est en train de tomber. Enfin, c'est très compliqué.
Il n'y a pas que la livre. Hein. Ouais. Si tu regardes toute la zone euro, le dollar est en train de reprendre le dessus méchamment.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en attendant, le fait que l'Angleterre, en plus, soit sortie de l'Europe, dans les faits, ils sont sortis de l'Europe. Pour eux, ça va être très compliqué, si tu veux. Le marché européen, il aurait fermé. Enfin, il y a plein de trucs qui est fermé. C'est un peu le marasme, quand même, en Angleterre, tu vois.
Bien. Est-ce qu'on passe au sujet suivant? Sujet suivant qui est la loi séparatisme.
Ouais, on va revenir là-dessus.
On va revenir là-dessus. C'est toi qui t'y colle?
Ouais, je m'y colle.
Ah, donc,
c'est, voilà. Alors, c'est pareil, hein, y a eu un article dans Révolution Permanente, là.
C'est
une source.
Ah. Et il va falloir qu'on fasse un partenariat avec eux.
Là, ouais, on peut leur envoyer un mail. Et en fait, l'année dernière, on vous en avait parlé un peu, là, cette loi séparatisme, dans plusieurs médinales. Là, c'est donc une loi que Darmanin a fait passer, c'était en début d'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Et en gros, à la base, c'était pour lutter, soi-disant, contre l'islam dans les associations islamiques. Enfin bon, bref, c'était plutôt centré sur l'islam. Hein. Il n'a parlé que de ça, je crois, dans son proposition de loi. Et en gros, ça visait à, encadrer, je ne sais pas si on peut le dire, des associations qui touchent des subventions. Voilà, en gros, on les oblige à signer un contrat avec l'État en disant « vous allez respecter les valeurs de la République. ». Voilà. Ce qui est très vague, en gros, tu signes une charte, et c'est assez vague sur les valeurs que tu dois respecter. Et donc, bah, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une association là, qui s'appelle Alternatiba,
oui.
Donc, voilà, qui a organisé un festival à Poitiers. Et donc, dans ce festival, il y avait un peu de tout. Hein. C'était en gros sur le monde de demain. Donc, moi, j'ai vu un article là-dessus. En gros, c'était des méthodes sur la consommation, la construction. En gros, comment s'adapter au changement climatique. Hein. C'est quelque chose qu'ils soutiennent. Mmh. Et pendant le festival, il y avait un atelier sur... Alors, excusez-moi, parce que... Hop, j'ai mon téléphone qui se met en veille. Il y avait un atelier sur la résistance civique... La désobéissance civile. Ouais. Voilà. Ce qui n'a pas été plus au préfet de la Vienne. Voilà. Donc, qui a écrit des courriers à la mairie de Poitiers, puisque, en fait, cette association reçoit 10 000 euros de subvention avec la mairie de Poitiers. Ouais. Donc, il a envoyé deux courriers. Donc, en gros, il dit, voilà, la loi... en fait, toute la loi dit que toute association subventionnée doit respecter un contrat d'engagement républicain et ne doit entendre ni inciter aucune action manifestement contraire à la loi. Sauf que ce que ne dit pas le préfet, c'est que dans cet atelier de désobéissance civile, il ne te disait pas comment désobéir à la loi. Il t'explique ce que tu dois faire, en gros, quand tu fais une manifestation, comment, quand tu es mis en garde à vue, ce que tu as droit de dire, pas dire, tes droits, en fait, finalement. C'est on en est là, quoi. C'est, en gros, ça s'appelle désobéissance civile, mais c'est plus comment t'organiser dans la lutte, quand tu fais des collages et tout ça. Si jamais les flics viennent t'arrêter, que tu es mis en garde à vue, bah, c'est quoi tes droits? Enfin, c'était expliquer aux citoyens comment se protéger vis-à-vis d'un État qui, en ce moment, est un peu, on va dire...
Un peu, il tape dessus fort, quoi.
Voilà. Donc, faut savoir que ce n'est pas la première association que notre gouvernement attaque, hein, parce qu'ils ont justement attaqué Nantes Révoltée. Ils ont attaqué aussi...
Ils ont perdu.
Voilà, ils ont perdu. Enfin, il n'y a, a pas eu de suite.
Ils ont retiré leur... ils ont
voilà. Il y a eu aussi Palestine Vaincra qui a été attaquée, une association pro-palestinienne, et c'est pareil, ça, ils ont été déboutés. Donc, voilà. Et pour, pour étayer le sujet, en fait, ce week-end sur Blast, ils ont parlé de ça justement, ils ont invité une nana de cette association-là. Et c'est assez intéressant, on va passer un petit extrait, parce qu'en fait, il y a une députée communiste qui a posé en question au gouvernement la question justement sur ces lettres envoyées à cette assoce, donc à Darmanin. Et je vous encourage à écouter... comment Darmanin répond à la députée, ça vaut 10. Hop. Excusez-moi. Hop.
Encore un problème technique de Pedro. Ouais,
c'est pas possible.
C'est pas du fiasco pour rien.
Ouais, voilà, ouais. Allez, on envoie l'extrait.
La lutte contre les séparatismes, à la veille de la présentation du texte en Conseil des ministres, nous sommes en mesure de vous confirmer les principales pistes retenues par le gouvernement.
Les associations, elles, seront plus strictement encadrées. Pour obtenir des subventions, elles devront signer un contrat d'engagement républicain.
Un festival citoyen voulait proposer des solutions face aux enjeux sociaux et environnementaux. Il y avait un atelier de désobéissance civile. Quand un préfet propose de leur couper les subventions au nom du non-respect du contrat d'engagement républicain, eh bien, je crois que c'est une atteinte extrêmement grave aux libertés fondamentales d'expression.
La République, c'est pas n'importe quoi, n'importe où, avec l'argent public. Voilà.
On se dit que c'est un peu la continuité de ce qui se passe depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, finalement, et de cette espèce de façon de traiter la mobilisation citoyenne et les associations, surtout quand elles sont un peu critiques, en ennemis.
Les écolos ont-ils fait sécession avec la République française? En tout cas, c'est ce qu'a l'air de penser le préfet de la Vienne. La semaine dernière, Jean-Marie Girier, c'est son nom, a demandé officiellement à la ville de Poitiers de retirer une partie des subventions accordées à une association de défense de l'environnement, Alternatiba. La raison? Celle-ci ne respecterait pas le contrat d'engagement républicain qu'elle a passé avec l'État. L'affaire est en train de virer au bras de fer entre la mairie et la préfecture. Alors, de quoi parlons-nous? C'est quoi un contrat d'engagement républicain? Quelle mouche a piqué le préfet de la Vienne? On fait le point tout de suite.
On vous mettra le lien dans l'article de la Médinale.
Bon, en gros, Darmanin défend son préfet et dit « il a raison ». Voilà, on en est là. Donc, on est un préfet de sa propre initiative estime qu'une association déroge à la loi. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Il n'y a pas une plainte déposée. Hein. C'est il envoie la lettre. Voilà. Donc, bon, heureusement, chez Radio Piquet, on n'a pas de subvention.
On est tranquille pour l'instant.
On est tranquille pour l'instant. Mais c'est à surveiller parce que ce n'est pas les premières dérives qui sont constatées. Le gouvernement français se fait rappeler à l'ordre assez régulièrement sur ces dérives sécuritaires à la fois par la Cour européenne des droits de l'homme, par l'Europe, sur la façon dont ils gèrent les médias. Et sur il n'y a pas longtemps, l'Europe s'est mouvée de la concentration des médias par des ultra-riches qui possèdent les médias pour faire leur relais, en gros. Et là, on voit qu'on a quand même un gouvernement, parce qu'un atelier porte un nom qui, soi-disant, amène à l'insurrection. Pour eux, je pense que c'est ça qu'ils ont vu, quoi. C'est une insurrection, quoi. Bon, voilà, on en est là. Et...
Bah, c'était un peu pourquoi ils avaient attaqué Nantes Révoltée, qui a changé de nom au passage, hein, on le rappelle. Nantes Révoltée est devenue Contre-Attaque.
C'est ça.
Et en fait, voilà, Nantes Révoltée ne rentrait pas dans la coupelle des grands milliardaires qui détiennent tous les médias. Donc, il ne fallait surtout pas en fait, que cette voix continue à être portée. Quoi. On s'attaque à tout ce qui ne va pas dans le sens du gouvernement. Quoi. Et attaquer des médias, ça ne leur pose pas de problème. Hein, dans un pays, soi-disant, des droits de l'homme, de la liberté d'expression, la liberté de la presse, bon, tout ça, ça a ses limites, on voit bien.
Ouais, voilà. Et donc, je vous encourage aussi vraiment à regarder cette vidéo sur Blast, là, on mettra le lien, parce qu'en fait, cette personne aussi qui est interrogée, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, explique très bien comment, depuis que la loi séparatisme est passée, en gros... Actuellement, les associations qui sont surtout attaquées sur cette loi séparatisme, ce sont les associations écologiques qui sont attaquées, par exemple, sur le combat sur les méga-bassines, elle parle de ça. Les gens qui sont mis sur écoute, les gens qui sont, qui sont suivis par l'IGPN, et enfin, tous ces gens-là, un peu de la sûreté intérieure. C'est assez intéressant. Et donc, voilà, on vous mettra le lien sur Radio Piquet de cette vidéo de Blast. Et je vous encourage d'ailleurs tous aussi à regarder le média Blast, qui est vraiment intéressant. Tous et toutes, excusez-moi. Qui est vraiment un média intéressant et qui mérite d'être écouté.
Très bien.
Dans le même registre, il y avait aussi le Maroc qui a fait une bonne blague à Darmanin récemment, parce qu'ils ont réussi à choper l'imam Ikoussen, je crois, oui. Qui s'appelait comme ça, en Belgique. Donc, pour rappel, c'est cet imam que Darmanin avait accusé d'être séparatiste, parce qu'il avait tenu des propos qui étaient misogynes et, encore plus avant, éventuellement, des propos antisémites. Donc, dans le même registre, hein, ce monsieur n'a pas eu de procès, n'a pas été condamné, quoi que ce soit, et donc un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Il a fini par être arrêté à Mons, en Belgique, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et ramené en France.
Dans le but de l'expulser de France,
pour l'expulser, oui, c'est toute la beauté de la logique. Et alors, la bonne blague du gouvernement du Maroc, c'est de refuser le visa d'extradition de l'imam. Donc, c'est plutôt amusant, ouais. Et il faut savoir quand même que le Maroc... la France demande aux ressortissants marocains des visas pour que les Marocains puissent voyager. Mmh. Que ces visas sont payants et que la moitié de ces visas sont refusés et pas remboursés. Du coup, je pense que c'est un petit renvoi.
Tu payes pour demander le visa, même pas pour quand tu l'as, quoi.
Le visa est payant.
Que tu l'aies ou pas. Donc tu fais la demande, tu payes et après tu pries.
Voilà, c'est ça, tu pries.
Tu vas voir l'imam.
Tu vas faire voir l'imam. Bon, bien.
Du coup, pour le moment, pas de visa pour expulser.
Oui, bah, de toute façon, c'est...
Donc c'est bien, Darmanin est coincé. Il était sorti de France, il l'a fait revenir et là maintenant, il n'arrive plus à le faire sortir.
C'est ça.
Bravo. Ouais. On rappelle Gérard. Ouais.
On rappelle que
Gérald.
Que ce monsieur, vit sur le sol français depuis sa naissance.
En plus. Oui. D'accord. Donc il a la nationalité française, en fait.
Non, il n'a pas la nationalité.
Mais s'il est né là.
Il aurait pu demander éventuellement à avoir la nationalité au bénéfice du droit du sol, mais je ne crois pas qu'il l'ait.
Ah, moi, je crois que c'était automatique. À partir du moment où tu étais né sur le territoire, tu avais la nationalité française.
Ouais. Ah non, ce n'est pas du tout automatique. Il faut faire la demande et il y a des conditions...
Peut-être que ses parents n'étaient pas français. C'est si tes parents sont français, il me semble que ça marche automatiquement. Mais...
Bon. Encore un cas de quatrième sur l'info chez Radio Pique. Mais c'est bien de m'avoir corrigé, merci. Si on faisait une petite pause musicale pour clôturer, on dit ça, hein, non, clore cette première partie.
Les deux se disent,
on peut mettre une clôture autour de notre partie sonore. Donc pour clore cette première partie, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Asgard, en musique?
On va écouter Quando de Aymat et après Demain il pleut de Guérilla Poubelle.
Et on se retrouve pour la deuxième partie.
Je m'emmerde, j'ai mal aux yeux. Mais dans ma vie, tu es top sans plus de. Je m'emmerde, demain il pleut. Mais dans la vie, tous les chiens sont boiteux.
Je m'emmerde.